RTE, le journal.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de votre journal Parler français de ce jeudi 7 mai 2026. Voici les titres. Au sommaire de cette édition, après la conférence de presse tenue à Kinshasa par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, place aux réactions. Si le parti de l'Union sacrée des discours du chef de l'État est rassurant, l'opposition dénonce une volonté de confiscation du pouvoir. À découvrir les réactions dans cette édition.
RTE.
Les mots de passe restent la première barrière contre les entrées non autorisées. Elle doit être bien définie pour bien garder les données personnelles dans un téléphone. C'est ce qu'a fait savoir Relance Kasereka Katalico, spécialiste en matière du numérique et politique et membre du conseil d'Internet Society DRC. Il a dit en marge de la journée mondiale du mot de passe célébrée le 6 mai de chaque année.
RTE.
Le phénomène enfant de la rue connaît une progression inquiétante dans la ville de Bukavu. Ce phénomène alimenté par la pauvreté, la non-intégration familiale et le manque d'encadrement inquiète la société civile, les forces vives locales. Leur présence est devenue quasi permanente dans différents coins de la ville de Bukavu soulève des préoccupations aussi bien sécuritaires que sociales. Le contrôle parlementaire à l'Assemblée provinciale de Kasaï Central, le ministre provincial des ITPR, a été le mercredi 6 mai 2026 devant les élus provinciaux pour répondre à une question orale avec débat sur l'état des lieux des infrastructures dans cette province.
RTE.
Voilà tout pour le titre, mesdames et messieurs. Les détails, c'est dans quelques instants.
Et au zénith de l'actualité.
Merci d'avoir choisi la RTE pour vous informer, mesdames et messieurs. Voici l'intégralité de votre journal. Et ce journal part de la ville de Boutembo. Les fidèles du ministère Esaïe 61, verset 1er, que dirige le serviteur de Dieu Jonas Mbayaï, ne cessent de témoigner leur bénédiction obtenue lors de la campagne d'évangélisation organisée par ce ministère pendant 10 jours au siège même de ce ministère. Ces derniers expriment leur bénédiction obtenue lors de ces 10 jours d'enseignement et de délivrance. Suivez ce reportage de Gisèle Lukambo.
Pendant 10 jours,
le pasteur Jonas Mbayaï a décortiqué la parole de Dieu autour du thème intitulé « Le jugement qui a condamné ta vie ». Ainsi, les fidèles adressent encore leur action de grâce à Dieu pour des grandes révélations apportées par son serviteur lors des enseignements. Ils témoignent la délivrance dont ils ont été bénéficiaires après qu'ils se soient séparés des jugements injustes qui ont occasionné bien des condamnations dans la vie de plusieurs personnes.
Par rapport à ces 10 jours, j'ai tellement apprécié la manière dont le serviteur de Dieu a opéré le miracle parce que beaucoup déjà étaient dans la confusion, qui avait fait en sorte que les gens puissent se retrouver avec beaucoup de condamnations. Donc j'apprécie sincèrement ces 10 jours de délivrance et d'enseignement. La Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple périt par manque de connaissances. Alors suite aux enseignements, tout le monde a compris. Ma vie était jugée injustement.
Donc nous avons lu dans Luc chapitre 12 verset 51, 52, 53. Là où Jésus-Christ vient nous séparer avec le jugement mauvais qui nous a condamnés. Donc, quelqu'un portera seulement ce fardeau. Quelqu'un d'autre ne portera pas le fardeau d'une autre personne. Ça a été ma grande bénédiction de me trouver délivré contre les malédictions de mes parents, de mes anciens parents. Ça a été ma grande bénédiction dans cette campagne d'évangélisation. Voyez aussi les miracles qui se sont produits dans cette grande journée-là.
Tous ceux qui ont été présents lors de ces 10 jours, chacun a récolté selon les engagements pris. Et en plus de cela, notre cœur a été vraiment bien soigné parce qu'il y a des blessures comme des chrétiens du ministère Esaïe 61, verset 1er. Je remercie l'Éternel parce que si le cœur est guéri, la chair aussi sera guérie.
En tout cas, nous remercions Dieu de nous avoir envoyé son serviteur, Papa Jonas Mbayaï, pour la délivrance de notre vie, pour la délivrance de toute la population de Boutembo concernée par l'évangile de Christ. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le ministère Esaïe 61, verset 1er.
Notons que le ministère Esaïe 61, verset 1er, fonctionne en ville de Butembo de la province Nord-Kivu, sur la colline de l'Auberge, à environ 5 parcelles en bas de l'ancien village royal. Sur la route Mutsanga, c'est derrière le garage Munyangulo. Le programme des cultes se présente comme suit. Lundi, jeudi et samedi. Durant ces 3 jours, les enseignements se tiennent le matin de 6h à 8h30 et le soir de 15h30 à 17h. Le dimanche, le culte débute à partir de 9h30.
Et Butembo, toujours, un mur d'une maison en pleine construction s'est écroulé sur les ouvriers ce jeudi 7 mai 2026 en cellule Kirivata au quartier Kiala dans la commune de Boulengera, ici en ville de Butembo. Selon nos sources, le bilan provisoire de cet incident fait état de 3 personnes grièvement blessées et conduites au centre hospitalier de Kiala pour des soins appropriés. Cette information est confirmée par John Kameta, président de la société civile dans la commune de Boulengera, que je vous propose de suivre dans cet élément.
Un accident de travail s'est produit à Selile Kirivata, quartier Kiala, commune de Boulengera, ce jeudi 7 mai 2026. C'était l'après-midi. Il s'agit d'une partie des chantiers qui était à pleine construction, qui est tombé sur ses ouvriers. Parmi ces ouvriers, parce qu'il faut le dire qu'ils étaient au nombre de 3 qui ont été touchés, tous des maçons, des hommes et une femme. Et il faut rappeler ici qu'une partie de ce chantier est tombée sur ces 3 personnes. Les personnes de bonne volonté sont arrivées pour les secourir et elles ont été conduites à l'hôpital centre hospitalier de Kiala, connu sous le nom de Mourenze. Le message de la société civile, c'est un message de la compassion à ces victimes de cet accident de travail. Mais pendant cette période pluvieuse, nous voudrions donc appeler tous les travailleurs, tous les gens qui travaillent dans des endroits qui peuvent être accidentés, d'être vraiment très très vigilants. C'est pendant ces périodes pluvieuses où on enregistre des catastrophes, où il y a des déboulements de terre.
Et le rire constitue une expression de joie. Psychologiquement, ils sont thérapeutiques dans la vie d'un être humain. Aussi, le rire retarde les rides et le vieillissement. À marge de la semaine du rire, le psychologue Kachuva Mastaki Daniel conseille à la population de rire au moins 30 fois par jour. Suivez ce reportage de Christine Aziz.
À en croire, le psychologue Kachuva Mastaki Daniel, traitant au Sepima Butembo, les rires thérapeutiques rassurent non seulement le rajeunissement de la figure, mais aussi chasser d'autres troubles psychiatriques, dont le stress ainsi que la dépression.
Le rire est d'importance capitale dans la vie de l'homme, car c'est très thérapeutique. Du point de vue psychologique, le rire, c'est une manière d'exprimer son émotion devant un événement erré. Le rire est thérapeutique dans le sens où, en riant, on exprime des émotions. Ainsi, le stress cumulatif sort. C'est ainsi que l'auteur, psychologue clinicienne Juliane Melgosa, nous a demandé de chaque fois rire au moins 30 fois par jour pour ne pas avoir des rides. Parce qu'il y a d'autres qui ont des problèmes de confiance psychique, parce que les gens sont très concentrés, vieillissent vite. Ayant l'habitude de rire 30 fois par jour. Mais quand vous êtes trop concentré, ça peut aussi vous créer d'autres problèmes du point de vue psychologique. D'ailleurs, ça guérit aussi d'autres troubles psychiatriques.
Cependant, le psychologue a fait observer qu'il y a aussi des rires pathologiques, signes de maladie mentale, des sujets qui rient à l'occasion de rien, sans qu'il y ait un stimulus. De telles personnes doivent être orientées vers les psychologues, conseille Mastaki Daniel.
Quand on est à réunion, vous allez voir la personne, elle est en train de rire, même à coup de route, sur goudreau, la personne sera là toujours en train de rire. Le rire là va montrer que la personne a un problème psychologique. Dans ce sens-là, le rire devient pathologique et ainsi la personne sera orientée auprès des psychologues cliniciens.
Ainsi, le Sepima appelle la population à profiter de la campagne des soins promotionnels pendant tous ces mois de mai, à mémoire de l'initiatrice de ce projet. Durant ces mois, la consultation est gratuite et le prix de l'examen à l'aide de l'appareil neuro-imagerie EEG a été revu à la baisse à $15 au lieu de $25, a confié pour sa part l'administratrice adjointe du Sepima.
Nous l'avons annoncé au sommaire de ce radio-journal, le mot de passe reste la première barrière contre les entrées non autorisées. Elle doit être bien définie pour bien garder les données personnelles dans un téléphone. C'est ce qu'a fait savoir Relance Kasereka Katalico, spécialiste en matière du numérique et membre du conseil d'Internet Society DRC. Il a dit en marge de la journée mondiale du mot de passe célébrée le 6 mai de chaque année. Reportage Ange Kabuya, rendu par Esperanza Sindani.
D'entrée des jeux, Relance Catalico définit un mot de passe comme une méthode d'authentification dont le rôle principal est de vérifier l'identité d'un compte avant d'accéder à un système informatique. Il note que si vous n'avez pas un bon mot de passe, n'importe qui peut lire vos messages et accéder à vos photos privées, stockées et d'autres éléments privés. Il signale également que pour choisir un bon mot de passe, il ne faut pas opter pour un mot très compliqué à retenir, mais plutôt pour un mot difficile à deviner pour les autres. Il recommande un mot de passe long et diversifié composé de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Il déconseille également le mot de passe contenant des données personnelles.
Si vous n'avez pas un bon mot de passe, n'importe qui peut lire vos messages ou peut-être voir vos photos que vous avez stockées. Mais aussi, si quelqu'un vole votre mot de passe, il peut demander de l'argent à vos contacts, à se faisant passer par vous. La règle générale pour choisir un mot de passe, de base, il ne faut pas chercher quelque chose de très compliqué à retenir, mais plutôt il faut choisir quelque chose de très difficile à deviner pour les autres. Donc il faut que votre mot de passe soit un peu très difficile à deviner pour les autres. De base, il faut faire des longs mots de passe. Plus il y a des lettres et peut-être des chiffres, mieux c'est. C'est-à-dire il faut peut-être combiner quatre catégories de caractères, notamment les lettres majuscules, les minuscules, les chiffres et même des caractères spéciaux comme dièse, dollar, point d'exclamation, point d'interrogation et d'autres caractères spéciaux.
À cette même occasion, Relance Catalico rappelle et déconseille l'utilisation des mêmes mots de passe sur tous les réseaux numériques et de ne jamais partager un mot de passe, même avec un proche ou un ami.
Si vous voulez être en sécurité, n'utilisez pas le même code ou bien le même mot de passe pour Facebook et pour votre boîte mail ou bien pour sur d'autres plateformes. Et ne partagez jamais votre mot de passe ou bien votre code secret, même avec un proche ou bien avec un ami.
Selon notre interlocuteur, les dangers sur Internet augmentent ces derniers temps, d'où avoir un mot de passe sécurisé est beaucoup plus nécessaire. Selon l'ingénieur, c'est un geste simple mais très important pour protéger ses données au quotidien.
Et santé à présent, la communauté est appelée à ne pas stigmatiser les enfants orphelins vivant avec le VIH. Ils sont à considérer comme tous les autres enfants dans la société. Cet appel a été lancé par Marie Darloz Kafania, secrétaire permanente de l'organisation Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale FEPSI. C'était à l'occasion de la journée mondiale des enfants orphelins du VIH, célébrée le 7 mai de chaque année. Suivez ce reportage de Ange Kavuya.
Abordée par la RDEE, Marie Delorose Kafania a indiqué que la FEPSI intervient dans la prise en charge psychomédicale des enfants orphelins porteurs du VIH, à leur apportant un accompagnement sanitaire, psychologique et social, si à vue de leur garantir une meilleure qualité de vie. Il a également souligné que la structure œuvre pour la réinsertion sociale de ces enfants, souvent victimes de rejet et de discrimination au sein de leur communauté. C'est la permanente de FEPSI. Plusieurs enfants vivant avec le VIH continuent de faire face à la stigmatisation. Cela constitue un danger à leur épanouissement et à leur intégration sociale.
Nous nous limitons surtout à la prise en charge psychomédicale de ces enfants qui sont porteurs du virus et les personnes vivant avec le VIH-SIDA, que nous soumettons au traitement par les ARV. Sinon, nous les orientons toujours avec les parents dans l'association MUR, parce que cette association, nous encadrons le PVV à travers cette association. Nous les soumettons à une adhésion pour qu'on puisse bénéficier de quelques avantages. Et si c'est un enfant qu'on vous l'avez dit, nous essayons de sensibiliser le parent qui le garde et qui, pour qu'il ne puisse pas craindre la faim, manger avec la faim, il n'y a pas de problème, dormir avec la faim, il n'y a pas de problème. Et nous leur montrons la façon de se prévenir de ces.
À cette même occasion, Marie Delorose Kafania appelle le parent et la population au dépistage volontaire du VIH afin de favoriser une prise en charge précoce et limiter la propagation de la maladie et limiter le nombre des orphelins du sida.
Et le message que je veux remettre à la communauté est que Quand vous avez d'abord un enfant suspect, amenez-le au dépistage volontaire que nous faisons gratuitement chaque lundi. Que ce soit pour les enfants qui sont restés, par exemple, des parents qui sont décédés, ou bien des enfants que vous connaissez séropositifs. S'il est sous ARV, il faut de temps en temps venir faire le contrôle du dépistage volontaire. Et puis, je dis encore à la communauté qu'il ne faut pas stigmatiser ces enfants. Il faut vraiment essayer de vivre avec eux. Ça le stigmatiser, les orienter au CHFEPSI où on pourra de temps en temps vous donner des conseils et de temps en temps voir cet enfant pour voir l'évolution et voir comment on peut encore l'aider davantage, surtout à psychothérapie.
Enfin, FEPSI rappelle que l'amour, l'encadrement et l'acceptation sociale constituent des éléments essentiels pour leur épanouissement et leur intégration au sein de la communauté.
Et la divagation des bêtes est réglementée par la loi en République démocratique du Congo. Il est interdit de laisser les animaux en liberté sur la voie publique. C'est ce qu'a fait savoir Maître Mouindo Wangeve Wilson, avocat au barreau auprès de la Cour d'appel du Nord Kivu. Suivez Light Musonga pour plus de détails.
Dans une interview accordée à la RTEE, Maître Mouindo Wilson a souligné que la divagation de bêtes n'est pas une pratique à banaliser. Elle doit au contraire être évitée et condamnée car elle est une source d'accidents de circulation, des dégâts aux cultures et des conflits entre les communautés. La matière est d'abord régie par l'ordonnance 54 bis bar agri du 5 mai 1936 relative à la divagation des animaux. Tout animal trouvé en divagation doit être mis en fourrière. Un procès-verbal est dressé et affiché devant le bureau de l'autorité territoriale. Pour récupérer l'animal, le propriétaire paie des frais de garde et de nourriture, conformément à la loi, a confié Maître William.
La question de divagation des bêtes est réglementée en République démocratique du Congo. Il y a le décret du 17 juillet 1952 sur la divagation des bêtes, mais aussi l'ordonnance numéro 54 bis bar agri du 5 mai 1936. La loi de la RDC interdit formellement de laisser divaguer les bêtes dans les milieux urbains, dans les propriétés des gens, même dans la voie publique. C'est déjà l'article 1er de cette ordonnance précitée qui interdit cela. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a des divagations des bêtes, il y a l'effraction que ces bêtes commettent des dégâts.
Au-delà de la sanction administrative, le propriétaire engage sa responsabilité civile. L'article 260 du Code civil congolais, livre 3, dispose que le propriétaire d'un animal est celui qui s'en sert et est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. En clair, si votre bête cause un accident ou détruit un champ, vous devez réparer le préjudice.
Il y a le principe maintenant des responsabilités et qui est établi, que ce soit la loi déjà a prévu la responsabilité par rapport à ces dégâts. Et si au niveau de l'article 260 du Code civil congolais, livre 3, on appelle ça le code des obligations. Lorsque vous êtes propriétaire des bêtes, les bêtes qui vont ravager les cultures déjà, ils vont occasionner des accidents dans leur divagation, les civilement responsables, c'est les propriétaires de ces bêtes-là.
Pour prévenir les risques, l'avocat conseille ce qui suit.
Dans notre ville de Boutembo, on voit des bêtes divaguer ça et là, occasionner des accidents et on laisse ça comme ça inaperçu. Pourtant, on a des textes qui réglementent tout ça. Et c'est donc au niveau des autorités, c'est pour procéder à l'arrestation des bêtes à divagation. Parce que lorsque on laisse traîner les bêtes, c'est une négligence. À la communauté, c'est dire que ce n'est pas mauvais de garder des bêtes. Mais il faut savoir qu'à chaque chose, il y a des responsabilités que la loi a déjà prévues. Les dégâts que ces bêtes peuvent causer à d'autres personnes, vous êtes les premiers répondants. Alors pour échapper à cela, il faut encore mieux prendre des mesures nécessaires pour élever ces bêtes dans les bonnes conditions.
Enfin, lorsque vous voulez apprivoiser des animaux, assurez-vous de les mettre dans des zones sécurisées où ils ne causeront préjudice à personne, conclut Maître Mouindo William.
Politique à présent, les réactions se multiplient après la conférence de presse animée mercredi 6 mai 2026 à Kinshasa par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Constitution, élections et situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo ont dominé les échanges entre les chefs de l'État et la presse. Si le parti de l'Union sacrée salue un discours rassurant, l'opposition, elle, dénonce une volonté de confiscation du pouvoir. Mouindo Deguisto pour plus de détails.
Au cours de cette conférence de presse, Félix Tshisekedi a assuré qu'aucune démarche officielle de révision constitutionnelle n'était engagée, tout en estimant que les débats sur la Constitution devaient rester ouverts. Le président congolais a également évoqué les prochaines élections, affirmant que l'organisation des scrutins dans un contexte marqué par l'insécurité à l'est du pays demeure un défi majeur. Des déclarations favorables accueillies dans les rangs des lignes sacrées de la nation. Philemon Matumo, porte-parole du Birei Kodor Kivu, parti membre de la majorité présidentielle, s'est dit satisfait de cette sortie médiatique du chef de l'État, estimant qu'il a permis d'éclairer l'opinion sur plusieurs questions sensibles liées à l'avenir politique du pays.
Le chef de l'État s'est retrouvé devant une guerre lui imposée, et cette guerre à laquelle il est en train de faire face aujourd'hui, il a dit et il a rassuré au peuple congolais qu'il pourra, n'est-ce pas, tout faire pour que cette guerre soit finie définitivement. Et c'est pourquoi il a dit, s'il a pris cette approche diplomatique, c'est parce qu'exactement, il a trouvé une armée qui était presque démolie, une armée qui était désarticulée, ce qu'il a qualifié même de clochard. Et donc, il y a déjà des efforts qui sont en train d'être fournis pour, n'est-ce pas, avoir une armée capable à pouvoir faire face à une agression extérieure.
Du côté du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Letton et tout autre, les partis de l'ancien président Joseph Kabila accusent Félix Tshisekedi de vouloir s'éterniser au pouvoir. Pour Ezekias Moyen, secrétaire exécutif du PPRD au Nord Kivu, il n'y a cependant aucune raison de craindre et retour de la dictature, affirmant que celle-ci n'a plus sa place dans un pays démocratique.
Nous, de notre côté, tout est clair. Nous savons qu'il n'est pas plus dictateur que Mobutu, ça c'est un. Nous savons ensuite qu'il ne gère pas à l'époque de Mobutu qui avait le sens unique de penser, la pensée unique. Lui gère à partir du moment où le pays a déjà été démocratisé, malheureusement pour lui. Le pays est démocratisé et plus de Congolais sait maintenant qu'on peut revendiquer un droit, qu'on peut orienter le pouvoir, qu'on peut décider à la place du pouvoir si le pouvoir ne le veut pas. Et trois, c'est qu'il doit savoir, il n'imposera toujours pas sa volonté à partir du moment où nous autres, nous savons qu'un dictateur de 32 ans peut prendre fin dans une année.
Même prudence chez Alain Zeza, l'analyste politique congolais, dit partager l'avis du président sur un point précis. La difficulté d'organiser des élections pendant qu'une partie du territoire national est restée sous contrôle de la rébellion. Selon lui, le retour de la paix doit rester la priorité avant toute échéance électorale majeure.
Comment voulez-vous qu'il y ait élection ici au Nord Kivu avec la situation sécuritaire qui y prévaut? Voilà pourquoi nous avons plus d'intérêt à demander et au chef de l'État et à tous les membres de l'opposition de faire en sorte que l'unité règne au sein d'abord de la classe politique et puis qu'il puisse privilégier dans les jours à venir des dialogues afin que la situation sécuritaire ou que la guerre prenne fin. Parce que nous sommes en train de vivre des calvaires. Nous qui vivons dans les zones occupées, ce qui nous intéresse le plus, c'est le retour de la paix. Nous ne sommes même pas intéressés qu'il y ait élection ou pas. Ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est la fin de la guerre.
Alain Cézan s'est dit également choqué et frustré par l'absence des réponses claires du chef de l'État sur la période à laquelle la paix pourrait être rétablie dans les zones occupées par les groupes armés.
Quand le chef de l'État va jusqu'à dire que nous nous sentons frustrés à entendre que le chef de l'État dise qu'il ne connaît même pas quand est-ce que la guerre prendra fin. Qu'il mette la responsabilité présidentielle à Dieu, à Pana, en tant que garant de la nation. Il doit s'assumer.
Cette conférence de presse du président Tshisekedi relâche donc les débats sur l'avenir institutionnel et électoral de la RDC dans un contexte toujours marqué par les défis sécuritaires dans l'est du pays.
RTE, étoile de l'information, lumière de la région.
Et nous débutons notre tour des provinces par la ville de Bukavu au sud Kivu où le phénomène enfant de la rue connaît une progression inquiétante. Ce phénomène est alimenté par la pauvreté, la non-intégration familiale et le manque d'encadrement. Pour la société civile Force Vive Noyée du communal d'Ibanda, la présence de ces enfants devenue quasi permanente dans différents coins de la ville de Bukavu soulève des préoccupations aussi bien sécuritaires que sociales. Selon elle, plusieurs facteurs seraient à la base de cette prolifération des enfants de la rue à Bukavu. Sifa Gorette pour plus de détails.
Murula Machumbiko, président de cette structure citoyenne, pointe du doigt à plusieurs facteurs explicatifs. Il cite notamment la précarité économique des ménages, l'abandon parental, la déscolarisation ainsi que l'influence de l'environnement à risque. Les conséquences à cette situation sont multiples et préoccupantes. Livrés à eux-mêmes, certains de ces enfants basculent dans la délinquance des survies, notamment les vols ciblant les passants pendant la soirée. À cela s'ajoutent des conditions de vie extrêmement difficiles, marquées par la faim, l'absence de soins médicaux et l'exposition à diverses formes de violence. La société civile appelle les organisations non gouvernementales à renforcer leur engagement dans la prise en charge psychosociale et la réinsertion de ces mineurs.
La plupart de ces enfants sont localisables au niveau du marché Nyawera, l'Institut Antenne d'Ibanda, chez Ideal et Baba Chingazi, et d'autres au niveau du terrain de l'ISP, tout près de la poste de Bukavu. Nous avons trouvé comme cause principale, il y a la pauvreté des familles, l'abandon des enfants par leurs parents, la non-scolarisation des enfants, mais aussi le mauvais entourage. À notre niveau, comme société civile, nous rencontrons ces enfants, nous leur sensibilisons de quitter Dalari, de rejoindre leur famille, mais aussi nous lançons toujours des appels aux ONG locales, nationales et internationales pour accueillir ces enfants, parce que parmi eux, il y a ce qu'on peut transformer et qui peuvent être utiles dans la communauté, en les mettant dans des centres de formation des métiers.
Par ailleurs, cet acteur de la société civile rappelle le rôle central de l'État dans la gestion de cette problématique. Il plaide pour l'identification systématique de ces enfants, leur encadrement et la mise en place de mécanismes efficaces de réintégration familiale. Enfin, un appel passant est lancé aux parents afin de renforcer l'encadrement familial, de garantir la scolarisation des enfants et de maintenir un dialogue permanent avec eux. Depuis Bukavu, Goret Sifa pour la RTI.
Merci beaucoup, Goret Sifa. Sud Kivu, toujours le bureau du cadre des concertations de la société civile du Sud Kivu, dénonce la recrudescence des menaces qui ciblent les interventions humanitaires dans plusieurs territoires de la province. Son vice-président Sami Jean Takimbula appelle à des garanties urgentes pour la sécurité des acteurs humanitaires. Il évoque notamment les cas des agents de l'organisation Médecins Sans Frontières, récemment pris à partie sur l'axe Kamitu Mwenga Kitutu par les éléments du groupe armé Wazalendo. Écoutez-le au micro de Egide Abalawi.
Il faut noter que les Médecins Sans Frontières, ce sont des humanitaires internationaux indépendants qui travaillent au plus aux côtés de la population depuis plusieurs années au pays, et plus particulièrement dans la province. On peut les voir intervenir dans des zones très reculées comme Kitutu, Kamituga, Mwenga et consorts, où c'est un mouvement de soulagement en regardant nos structures sanitaires qui n'ont pas des capacités nécessaires pour suppléer aux besoins urgents et médicaux de la population.
Et rendons-nous maintenant au Maniema, où certains responsables des services de maintien de l'ordre public sont pointés du doigt par les victimes des braquages à Kindu comme étant auteurs actifs dans l'insécurité urbaine dans cette ville. Quelques éléments des forces de l'ordre ont été repérés parmi ceux qui inquiètent la population dans plusieurs quartiers de Kindu. Certaines victimes se sont confiées à notre reporter Nzale Balewa. Vous les écoutez.
Nous avions été visités par les malfrants, c'était vers 0h03. Je vous rassure que, messieurs les journalistes, toute la population maniémienne est abandonnée à leur triste sort, parce que je l'ai constaté ces jours-là. Dans ma maison, j'ai été visité par les bandits à main armée. Ils ont tenté ma porte, ils n'ont pas pu réussir. Mais ils ont donné les coups de balle, presque 5 balles dans ma maison. Alors, ils ont occasionné percer dans 4 ménages. Et ils ont tenté ces 4 ménages, ils ont réussi. Ils sont parvenus à prendre dans chaque maison de l'argent, des biens de la maison. Ils ont ligoté les parents et ont violé aussi les filles. Alors, de toutes les façons, je demanderai à toutes les autorités de prendre des meilleures décisions pour sécuriser la population et leurs biens. Parce que nous avons déjà constaté, bon gré mal gré, il y a des autorités qui sont entrées de travailler en connivence avec la police qui fait les patrouilles. Mais moi, j'ai compris qu'il y a aussi un système de politisation de ceux qui sont en train de faire la patrouille avec les hommes en uniforme. Parce que moi, j'ai constaté les gens qui sont venus dans ma maison qui ont dit que nous sommes en train de faire une patrouille la nuit. Ce sont eux qu'on a trouvés à l'extérieur. Lorsque la population était venue nombrer chez moi pour me libérer dans la maison, ils ont trouvé les gens devant ma maison en train de ramper. Alors, ils sont en train de ramper, ils ont été capturés par un chien. En étant capturés par un chien, ils vont déclarer que c'est nous qui sommes en train de faire, de garder la population. Nous avions dit que ce n'est pas ça. Comment expliquer que vous faites ça? Alors, en conclusion, j'ai dit que les gouverneurs de la province puissent veiller, savoir qui sont en train de faire à la patrouille aussi, la nuit, pour que les gens soient en sécurité. Et savoir avec les services de sécurité, qu'est-ce qu'ils font.
Au Katanga, à présent, lors d'une parade organisée ce jeudi 7 mai 2026 au camp est de la police nationale congolaise à Lubumbashi, en présence de plusieurs officiers de la police congolaise en charge d'appui et gestion, le général Jean Bosco Galenga a rappelé aux policiers l'obligation de respecter les droits humains et la discipline, avant d'insister sur l'interdiction de torturer les personnes interpellées. Il a exhorté les éléments de la police à être des vecteurs de paix au service de la population et au sein des troupes. Les respects des lois du pays ont été également rappelés à ces éléments de la police. Suivez-les au micro de Dédé Roy, notre correspondant à Lubumbashi.
J'ai d'entrée de jeu transmis à l'ensemble de nos troupes les salutations de M. le commissaire général et de toute la hiérarchie de la police. J'ai insisté autour de la discipline. Comme vous le savez, qui est la mère de notre travail, la mère des armées. J'ai demandé à chaque policier d'être en paix, de se sentir en paix, mais d'être aussi un vecteur de paix. Vecteur de paix dans la troupe, vecteur de paix dans la communauté où on vit, vecteur de paix dans la population. J'ai insisté sur le fait que nous étions tous des volontaires, personne d'entre nous n'était recruté de force, n'était pris de force, et à titre de volontaire, nous avions d'ores et déjà, en nous faisant engager à la police, accepté d'obéir.
Contrôle parlementaire à l'Assemblée provinciale du Kasaï central, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, ITPR, Chikai Chaikai, a répondu ce mercredi à la question orale avec débat du député provincial Voltaire Chimboabwa sur les infrastructures en province. Il a obtenu 24 heures pour compléter ses réponses devant la représentation provinciale après un parapluie des questions posées par les députés provinciaux. Découvrons la dite question orale avec débat dans ce reportage de Soleil Toumba, notre permanent dans la province du Kasaï.
C'est dans un esprit républicain que s'est tenue ce mercredi la plénière à l'Assemblée provinciale du Kasaï central. À l'ordre du jour, une question orale avec débat du député provincial Voltaire Chibouaboua, adressé au ministre provincial des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, M. Chikai Chikai. L'élu de Kazumba a voulu obtenir des éclaircissements sur des dossiers majeurs, notamment la désaffectation d'un terrain public situé au quartier Plateau, commune de Kananga, au profit de l'église de Jésus-Christ, des saints de dernier jour.
La gravité de la situation m'oblige de vous présenter la présente question orale qui s'articule de la manière suivante. 1. Qu'avez-vous fait en tant que ministre des tutelles du processus qui a permis à l'église des saints de dernier jour d'obtenir l'arrêté précité ayant désaffecté cette emprise publique, se trouvant devant leur parcelle?
Invité à la barre, le ministre provincial des ITPR a apporté une première série de précisions aux préoccupations soulevées par le député Voltaire Chibouaboua en ces termes.
Permettez-moi d'apporter des clarifications essentielles sur cette question, afin d'éviter toute confusion et de replacer les faits dans les cadres institutionnels exacts. La démarche de l'Église a été menée au niveau du gouvernement national à travers le ministre de l'Urbanisme et Habitat, qui a pris la décision de désaffecter les dix espaces. Au niveau de la province, on était consulté juste pour émettre un avis.
Après cette première réplique, les échanges se sont poursuivis. Plusieurs députés ont saisi l'occasion pour interroger le ministre sur d'autres projets d'infrastructure inscrits dans le programme du gouvernement provincial ainsi que par certaines entreprises qui exécutent les travaux de la voirie urbaine. Soucié d'apporter des réponses claires, chiffrées et documentées sur les questions, le ministre provincial des ITPR, Chikaï Chikaï, a sollicité un délai de 48 heures. Une demande jugée recevable par le bureau de l'Assemblée provinciale, mais lui accorde seulement 24 heures. Le ministre est donc attendu ce vendredi au perchoir de l'hémicycle provincial pour compléter ses réponses.
Et toujours dans le même chapitre, le bureau de l'Assemblée provinciale de Lomami a convoqué tous les députés provinciaux de Lomami à une séance plénière prévue pour le lundi 11 mai 2026 prochain à 10h. Cette rencontre s'annonce déterminante pour le bon fonctionnement de cette institution provinciale. Plus de détails, c'est avec Benjamin Loubou.
Selon les communiqués officiels signés par les rapporteurs de cette institution, les députés provinciaux David Ilouan-Kabobo, l'ordre du jour de cette plénière comprend plusieurs points essentiels, notamment l'adoption de l'agenda, la présentation des commissions d'enquête, l'examen et l'adoption des procès-verbaux, ainsi que la communication du bureau. Notons que le point central de cette plénière reste l'audition de la question orale avec débat, initiée par les députés provinciaux Antoine Milanda Fambalambalamba à l'intention du ministre provincial des ITPR. Cette démarche traduit la volonté de l'Assemblée provinciale d'exercer pleinement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, en particulier dans le secteur des infrastructures. Sur le même communiqué, le bureau de l'Assemblée insiste sur la présence obligatoire de tous les députés provinciaux au regard de l'importance des matières inscrites à l'ordre du jour pour la gouvernance et le développement de la province. Dès Lomami, j'interviens depuis la ville de Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami, Benjamin Loubo, RTE Kivu.
Merci beaucoup Benjamin Loubo et c'est par vous que nous clôturons ce radio-journal. J'étais Moïse Ndungo à la présentation, Héritier Goupaïk a tenu les manettes techniques et Patrick Kimimbe derrière la caméra. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pendant plus de 35 minutes d'information. Nous vous laissons suivre d'autres programmes de la RTE. Passez une excellente nuit à vous.